Hier était une journée spéciale à l'antenne de France Culture. C'est aujourd'hui que nous revenons sur le prix Nobel de chimie 2020 qui a donc été décerné hier à deux femmes, l'américaine Jennifer Doudna et la française Emmanuelle Charpentier, que l'on écoute.
The CRISPR-Cas9 has molecular scissors that can be programmed.
CRISPR-Cas9, ce sont des ciseaux moléculaires qui peuvent être programmés
DNA, cleavage, and by then, trigger
pour reconnaître certaines séquences d'ADN, les couper et déclencher un mécanisme d'ingénierie génétique.
These molecular scissors can rewrite the code of life.
Ces ciseaux moléculaires peuvent réécrire le code de la vie. Le génome est le support de ce code de la vie et il peut être, d'une certaine façon, comparé à un livre avec des phrases et des mots.
And what CRISPR-Cas9 does as molecular scissors, it works like a software.
Les ciseaux moléculaires de CRISPR-Cas9 fonctionnent comme un logiciel qui peut reconnaître une phrase dans un texte ou certains mots dans un texte et peut soit changer les lettres dans un mot, soit corriger un mot, corriger une phrase, ou encore éliminer une phrase ou éliminer un mot. On peut, de cette façon, changer le sens du texte ou le sens d'une phrase. Voilà ce que font les ciseaux moléculaires sur le génome des cellules ou des organismes.
Voilà, hein, l'histoire de CRISPR-Cas9, hein, c'est une histoire qui est allée très très vite. Les deux généticiennes ont publié leur découverte dans la revue Science en 2012, il y a moins de 10 ans. Depuis, hein, cette technique a complètement bouleversé la façon dont on fait de la recherche et cet outil reste largement utilisé pour trouver de nouveaux médicaments contre le cancer, contre des maladies génétiques, le VIH ou encore contre le vieillissement cellulaire. À la base de cette découverte, en 2006, Emmanuelle Charpentier, qu'on écoute à l'instant, mène des travaux de recherche fondamentale. Des recherches sur des bactéries et sur leur système immunitaire. Comment certaines se défendent face à des virus. Elle découvre que ces bactéries conservent dans leur propre ADN de l'ADN de virus pour l'utiliser plus tard contre de futures attaques. Puis, avec l'experte en ARN, Jennifer Doudna, elles comprennent que ces bactéries utilisent une molécule qui cible et qui tranche le matériel génétique viral, l'enzyme Cas9. Sophie Sakin-Mora est chercheuse du CNRS au laboratoire de biochimie théorique. Attention, tendez l'oreille.
La bactérie va utiliser une protéine, donc après qui s'avère être Cas9, donc c'est une endonucléase, c'est une protéine qui a pour fonction de couper l'ADN. Et en fait, elle va la programmer pour aller attaquer le matériel génétique, l'ADN viral. Donc notamment en la couplant avec un petit fragment d'ARN, et le CRISPR dans le nom du modèle. Donc CRISPR-Cas9, c'est le couplage d'un petit fragment d'ADN, cette petite séquence qu'on a appelée CRISPR, et Cas9, la protéine. Et en fait, cet ARN va un peu tenir d'ordre de mission, tout tient lieu d'ordre de mission à la protéine, parce que ça va lui dire le type de séquence qu'elle va aller découper.
CRISPR-Cas9, est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, c'est du, dans l'ingénierie génétique, que c'est du biomimétisme?
Alors, oui, parce qu'en fait, on a acquis, voilà, ça n'a pas inventé le principe. On a découvert, c'est les bactéries qui ont fait tout le travail, on va dire, d'ingénierie, d'évolution. Et aussi, celle pour prendre la mesure de pourquoi c'est une invention assez fascinante, c'est qu'il faut imaginer qu'en fait, les techniques d'édition du génome existaient déjà il y a une dizaine d'années, mais c'était beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, pour aller éditer une séquence, il fallait une protéine spécifique. Donc, il fallait une endonucléase spécifiquement adaptée à la séquence d'ADN qu'on souhaitait découper. Donc, c'était un peu des endonucléases à usage unique. C'était long et coûteux d'aller les fabriquer. Là, avec CRISPR-Cas9, on a une protéine qui va servir à découper des séquences à plein de droits différents. Ça a complètement bouleversé la façon dont on travaille dans les labos. Ça allait tout d'un coup beaucoup plus vite et beaucoup moins cher.
Voilà, pour tout comprendre à CRISPR-Cas9, on vous a mis le lien sur notre fil Twitter vers l'émission entière que nous y avions consacrée. C'était le camarade Olivier Lascar qui était aux commandes à l'époque. C'est sur le fil Twitter, donc @laméthodefc, et sur la page de l'émission sur franceculture.fr. On passe au bref. Les eurodéputés viennent de voter la loi climat avec l'objectif de réduire de 60% les émissions de CO2 d'ici 2030.
Et pour le Parlement européen, l'objectif est de respecter ses engagements dans l'accord de Paris et à plus long terme, que l'Europe atteigne la neutralité carbone d'ici 2050. le texte prévoit que chaque État membre atteigne la neutralité climatique. Il envisage des financements pour soutenir cette transition écologique. Les eurodéputés ont aussi prévu la mise en place d'un Conseil européen du changement climatique, le CECC, ainsi que la suppression progressive des subventions directes et indirectes aux combustibles fossiles d'ici 2025.
Et pendant ce temps-là, le mois de septembre 2020 est le mois de septembre le plus chaud de l'histoire météorologique.
Et chaque mois ou presque, nous faisons cette annonce dans ce journal des sciences. C'est le 16e mois consécutif où la température moyenne mensuelle à l'échelle de la France est supérieure à la normale. Selon le service européen Copernicus sur le changement climatique, à qui nous devons ces données, le mois de septembre 2020 a été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Depuis octobre 2019, il fait 1,28 degrés de plus que les températures de l'ère pré-industrielle. Avec des vagues de chaleur exceptionnelles, il est fort possible que 2020 devienne l'année la plus chaude de toutes.